Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Et voici votre premier journal avec Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Car il est 6h sur Europe 1, merci d'être avec nous.
On demande vraiment de la visibilité, mais depuis longtemps. Hein. On a beaucoup de questions et pas de réponses.
Les restaurateurs dénoncent le flou des autorités. Le gouvernement envisage une réouverture de certains lieux autour de la mi-mai. Mais qui est concerné? Quel sera le protocole à un mois de l'échéance? Ces professionnels veulent une feuille de route.
Le Parlement a voté, les élections régionales se tiendront bien au mois de juin. Mais faut-il dans cette perspective vacciner les assesseurs? C'est la demande d'un maire du Nord. Il interpelle le gouvernement.
10 ans après la mort du milliardaire Claude Drey, les enquêteurs ont identifié un suspect. C'est le plus grand escroc de ces dernières années, déjà condamné pour fraude à la taxe carbone.
Enfin, les Britanniques diront adieu au prince Philippe cet après-midi. Ses obsèques seront célébrées à Windsor.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ces derniers jours, l'affirmation s'est teintée de conditionnel. Emmanuel Macron avait promis un déconfinement progressif à partir du 15 mai. Aujourd'hui, ça semble un peu moins certain.
Oui, il est trop tôt pour parler de réouverture, disait hier le ministre de la Santé. Flou entretenu par le porte-parole du gouvernement qui a évoqué une réouverture de certaines terrasses autour de la mi-mai. Au bout de la chaîne, il y a des professionnels qui, eux, attendent. Ils ont besoin de s'organiser. Frédéric Michel est allé à la rencontre des restaurateurs de Toulon.
Grâce à la vente à emporter, Marco Cassola a limité les pertes. L'urgence aujourd'hui de ce chef napolitain à la tête de 2 restaurants à Toulon, c'est de préparer la saison d'été. Mais comment sans perspective?
On n'a aucune date, c'est très compliqué parce qu'une saison ça se prépare en avance. En tout, on doit avoir 17 personnes qui travaillent en salle. Aujourd'hui, j'en ai 2. Là, il y a même des personnes qu'on a fait signer une promesse d'embauche, mais qui après m'ont appelé, ils sont annulés parce qu'ils sont partis en Espagne où le marché de la restauration s'est ouvert.
Marion Pouget, la chef du Café Les Houbes, à Bormes-les-Mimosas, elle aussi peine à recruter.
On doit embaucher 80 salariés et on ne peut pas les trouver comme ça si on n'a pas de réponse. Et c'est très difficile de leur dire bah, vous pourrez commencer en juin, sauf qu'on ne sait pas. On est dans un flou qui est total. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est nos fournisseurs qui sont aussi dans le flou que nous. On demande vraiment de la visibilité, mais depuis longtemps. Hein. On a beaucoup de questions et pas de réponse.
Dès la mi-mai, les terrasses sont-elles ouvertes dans toute la France? Quelle jauge? Quelle date pour un service en salle? Sans réponse, les chefs restent sur leur faim et inquiets. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1.
Incertitude sur les terrasses et sur les lieux culturels. Les écoles, en revanche, rouvriront bien le 26 avril prochain.
Partout en Europe, les gouvernements organisent leur réouverture. En Suisse, par exemple, le déconfinement, c'est lundi. Isabelle Horry, on vous retrouve à Bruxelles. Isabelle, où en sont nos voisins européens?
Eh bien, voir un squelette d'iguanodon, un tableau de Magritte ou une maison à nouveau, c'est possible à Bruxelles. En Belgique, les musées sont restés ouverts depuis le 1er décembre grâce à la mise en place de protocoles stricts et d'une jauge quotidienne. Il faut réserver sa place à l'avance, mais une pause culturelle est possible. Même chose dans certaines régions espagnoles, à Madrid et Barcelone notamment. Et là-bas, cinéma et théâtre accueillent aussi du public. Il faut être masqué et le nombre de places est limité. La Suisse s'apprête à prendre le même chemin dans les salles. 50 personnes maximum seront autorisées. Les terrasses des cafés et des restaurants helvétiques vont aussi accueillir des clients. 4 personnes par table maximum. En Belgique, il faudra attendre le 8 mai. En Italie et en Allemagne, en revanche, pas de perspective à ce stade. Seul le land frontalier de la Sarre a rouvert ses restaurants le 6 avril. Pour y entrer, il faut réserver et présenter un test négatif de moins de 24 heures.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
En France, ce processus de déconfinement est lié bien sûr à la campagne de vaccination. Près de 12 300 000 personnes ont reçu une première dose.
On sait que dès la semaine prochaine, des créneaux seront réservés pour les enseignants et pour les policiers. Faut-il également vacciner les assesseurs des prochaines élections régionales qui se dérouleront à la fin du mois de juin? C'est la proposition d'un maire de l'agglomération lilloise, Lionel Gougelot.
Là, on se retrouve avec un contexte quand même très particulier d'une double élection, dans un contexte sanitaire qu'on connaît.
2 élections, régionales et départementales. Pour les bureaux de vote de la commune de Mouveau, 13 000 habitants, cela veut dire 280 assesseurs et scrutateurs à recruter. Pour l'instant, Christophe Aimé, en charge des élections à la mairie, n'en a inscrit qu'une dizaine et il se demande s'il aura le jour J le nombre de bénévoles suffisant.
On compte donc sur les assesseurs désignés par les candidats et puis ensuite les bonnes volontés. On espère qu'ils ne nous feront pas défaut et effectivement... Ils sont beaucoup plus préoccupés par la crise sanitaire et le Covid en ce moment.
Alors pour pouvoir organiser le scrutin correctement, Éric Durand, le maire, ne voit qu'une solution, vacciner les citoyens qui seront volontaires pour tenir les bureaux de vote.
Aller dans un bureau de vote dans un contexte où on n'est pas vacciné, même avec toutes les précautions, il y a une petite retenue, un climat anxiogène. C'est pour ça que je souhaite vivement que l'on priorise les personnes qui tiennent les bureaux de vote pour garantir leur santé, mais aussi pour montrer à ceux qui veulent venir voter qu'il y a toutes les précautions sanitaires qui sont mises en place.
Et pour l'élu, il faut faire vite afin que les assesseurs et scrutateurs aient reçu leur deuxième injection au moins quelques jours avant le premier tour des élections. À Mouveau, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puis en matière de vaccination, cette nouvelle alerte autour de la formule d'AstraZeneca. 9 nouveaux cas de thrombose ont été détectés en France début avril. Des caillots sanguins qui ont entraîné 4 décès. L'Europe pourrait ne pas renouveler son contrat avec le laboratoire anglo-suédois. Voilà ce que disait hier la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher.
Il est 6h05, c'est une affaire vieille de 10 ans que sont peut-être en train de résoudre les enquêteurs. En 2011, le milliardaire Claude Drey était tué dans sa villa de Neuilly-sur-Seine.
L'homme d'affaires qui avait fait fortune dans l'immobilier est abattu de 3 balles dans la tête. 10 ans plus tard, un suspect a été mis en examen. Il s'agit de l'un des plus gros escrocs français, Guillaume Bier.
Il est connu pour ce que l'on a appelé le casse du siècle, la fraude à la taxe carbone qui a coûté des centaines de millions d'euros à l'État. Arnaud Mimran, 49 ans, est un golden boy, ancien trader, joueur invétéré et déjà condamné à de la prison ferme. Mais lui qui a toujours affirmé ne pas avoir de sang sur les mains est désormais poursuivi pour l'assassinat de son ex-beau-père, le milliardaire Claude Drey. Un dossier aux allures d'énigme criminelle depuis 10 ans, sans vol ni effraction. Une décennie que les policiers soupçonnaient Arnaud Mimran sans avoir de preuves formelles. Mais de nouveaux éléments ont récemment fait basculer le dossier, avec pour lui une double accusation, assassinat dans l'affaire Claude Drey et meurtre dans un autre dossier, la mort un an auparavant de Samy Souyed, tué porte-maillot à Paris, un ancien complice d'Arnaud Mimran dans les escroqueries à la taxe carbone. Des charges lourdes qui pourraient le maintenir en détention plusieurs années encore, lui qui était libérable dans quelques semaines.
Les précisions de Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans les Vosges, 4 jours après la disparition de Mia, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Ils soupçonnent la mère de la petite fille de l'avoir emmenée à l'étranger. Cette femme, qui n'avait plus le droit de voir sa fille seule, aurait commandité son enlèvement. 4 hommes, dont 3 ravisseurs présumés, ont été interpellés. Et puis en politique, à un an de la présidentielle, la gauche se réunit ce matin à l'initiative de l'eurodéputé vert Yannick Jadot.
Oui, à l'initiative de Yannick Jadot, il y en a un qui devrait quand même faire la grimace ce matin, c'est Olivier Faure, parce que s'il y en a un qui demande la réunion de la gauche depuis à peu près 2 ans, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, il sera notre invité à 8h15. Les Britanniques cet après-midi auront les yeux tournés vers Windsor, bien sûr. Les obsèques du prince Philippe débuteront à 16h, heure française.
Cérémonie toute particulière, bien sûr, en raison de la pandémie. Il n'y aura que 30 invités masqués dans la chapelle du château. Funérailles intimes, comme le souhaitait d'ailleurs le duc d'Édimbourg.
Les Britanniques sont appelés à ne pas se rassembler, mais certains ont tout de même fait le voyage. Reportage à Windsor de notre correspondante Anaïs Cordoba.
Très attachée à la famille royale, Fiona est venue spécialement du nord de l'Angleterre à Windsor pour les funérailles. Accompagnée d'une amie, elles vont se recueillir devant le château au moment de la messe, malgré les injonctions des autorités qui veulent éviter la foule pour des raisons sanitaires.
Nous n'allons pas voir grand-chose, mais nous voulions être là. C'est vraiment dommage que ça se passe comme ça. Il méritait tellement un adieu grandiose, même si ce n'est pas ce qu'il voulait forcément. C'était une légende, il n'y aura plus d'homme comme lui. Il était le pouvoir derrière le trône et 73 ans avec la reine, c'est une immense histoire d'amour.
Passant vêtu de noir, drapeau en berne, bouquet au pied du château et photo du prince Philippe accroché aux devantures des commerces, Windsor commémore son prince. Dans l'un des pubs historiques de la ville, Stuart, le manager, s'apprête à fermer pour respecter cette journée de deuil.
On savait que ça allait arriver vu son âge, mais nous espérions qu'il fête son 100e anniversaire. C'était une star à Windsor, c'était chez lui ici. Il va beaucoup manquer aux habitants.
Stuart, comme l'immense majorité des Britanniques, va suivre la cérémonie à la télévision. Elle débutera à 16h, juste après une minute de silence national. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et le dernier roi de France, c'était Louis-Philippe et son descendant direct, le prince Jean de France, le comte de Paris. Et notre invité tout à l'heure à 7h40, il est d'ailleurs apparenté au prince Philippe, on parlera de la monarchie et de cet engouement pour la monarchie britannique.
En football, le leader Lille a trébuché hier soir, match nul du LOSC face à Montpellier, 1-1. Et cela pourrait coûter cher dans la course au titre. Ce soir, il y aura deux rencontres, Angers-Rennes et Marseille-Lorient.
Enfin, les JO de Tokyo sont censés s'ouvrir dans moins de 100 jours maintenant, avec certains athlètes vaccinés.
Oui, ça n'est pas encore une obligation, mais une recommandation du Comité international olympique. Le CIO encourage la vaccination des délégations. Et en France, eh bien, on y pense de plus en plus. Corinne Boulou.
Jusqu'à présent, les sportifs ne sont pas prioritaires, mais les athlètes qui vont composer l'équipe de France olympique pourraient le devenir rapidement. Des discussions sur les modalités de vaccination sont en cours, comme l'a précisé la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu.
Aujourd'hui, on est en discussion avec le ministère de la Santé pour voir quel vaccin, quand ou comment. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, les athlètes, leur staff et leurs entraîneurs puissent se rendre à Tokyo en toute sécurité par rapport au Covid.
Il ne faut plus tarder. L'idée serait, selon nos informations, que la vaccination des premiers membres de la délégation olympique commence dès la fin du mois ou au début du mois de mai. 1600 personnes, athlètes et encadrement, pourraient donc être vaccinées avant de partir au Japon. Le champion olympique de saut à la perche, Renaud Lavillenie, y est tout à fait favorable dès que ce sera possible.
Oui, parce que j'ai l'intention de partir en stage à l'étranger et le fait de ne pas être vacciné complique considérablement la tâche. Ça permet de se rassurer un petit peu plus parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il y aura des protocoles qui vont être lourds, mais c'est le prix à payer pour avoir des Jeux Olympiques.
Pays organisateur, le Japon songe à vacciner en priorité ses athlètes comme les États-Unis, l'Australie ou la Pologne. Israël, la Lituanie et la Hongrie ont déjà commencé.
Corinne Boulou, et malgré l'incertitude qui plane toujours, le Japon se dit aujourd'hui déterminé à organiser les Jeux Olympiques cet été. Ce serait un symbole de l'unité mondiale, selon le Premier ministre japonais.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre.